Ça m'a fait très plaisir que tu évoques à l'instant Saussure. Je suis un crypto-saussurien. Je reviens petit à petit vers Saussure de manière moins cryptique d'ailleurs. Et en même temps, si je dis crypto-saussurien, c'est parce que Saussure n'était plus du tout en vogue depuis 20 ou 30 ans. Et pour des raisons de fond. Parce qu'il y a un problème chez Saussure, le passage du synchronique au diachronique, il n'arrive pas à le faire. C'est pour ça que je suis passé par Simondon, qui lui permet de penser les phases de la métastabilité, l'équilibre métastable, qu'un type comme Saussure n'arrive pas à penser. Et je ne crois pas que j'en parlerai aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais souligner ça, souligner aussi que on n'entend pas. Non? Pas très bien. Souligner aussi que le concept de système que tu as utilisé est également pour moi très important, au sens saussurien, mais pas seulement au sens saussurien. Au sens gilien, au sens simondonien, là aussi, parce qu'il y a un concept de système chez Simondon, au sens leroy-gouranien, même s'il n'y a pas de système chez Leroy-Gourhan déclaré comme tel, il y a quand même une théorie systémique de ce qu'il appelle, par exemple, les équilibres fonctionnels, etc. Donc je me sens très très en familiarité avec l'armature conceptuelle sous-jacente à l'exposé de François Delalande. Avant d'entrer dans mon sujet, je voudrais dire que je suis très content d'être là. Je remercie beaucoup François et Daniel de m'accueillir ici au GRN. C'est vrai que c'est la troisième fois que je viens dans cette salle pour parler en public. La première fois, ce n'est pas exactement pour parler en public, c'était pour écouter le GRM présenter un certain nombre de choses. Je venais effectivement, j'arrivais, ça devait être au mois de juillet ou de septembre, peut-être 1996. Et je me souviens que j'étais assis au premier rang. Je me souviens que derrière moi, il y avait toute l'équipe de la recherche avec Hugues Vinet, pas Hugues Vinet, Jean-François Louis à l'époque, Jean-François Louis, qui est aussi passé par le GRM. Et que Emmanuel Favreau notamment nous présentait les GRM Tools, entre autres choses. Et qu'on avait eu toute une discussion, pas simplement avec l'équipe du GRM, mais avec le reste des cadres du département d'innovation de l'INA sur analyse et synthèse. Et je vais justement revenir sur cette question de l'analyse et de la synthèse, qui est pour moi au cœur des questions, disons les clairement politique sur lesquels tu m'as convoqué et dont je vais parler. Donc. Mais je vais revenir sur ce problème de l'analyse et de la synthèse. En insistant d'ailleurs sur le fait que le mot composition, si on le traduit en grec, il faut l'appeler synthesis, synthèse. Et que quand tu dis 1 million de compositeurs, évidemment, on se dit tout à coup, la France, c'est. Retrouver avec un patrimoine, et qu'est-ce que ça veut dire que la synthèse que font ces gens-là, c'est ce million de. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le rapport avec ce qu'on appelle les compositeurs dans les classes de composition, etc. C'est évidemment le cœur de la question, et que je prends personnellement, comme toi, extrêmement au sérieux. La deuxième fois que je suis venu ici, c'était à l'invitation de François Bell, pour faire une conférence. Qui va d'ailleurs avoir un petit écho dans un livre que je publie dans 3 semaines, qui s'appelle De la misère symbolique, qui reprend un titre d'un article qui, je crois, était à l'origine de la proposition qu'il m'a faite d'ailleurs, que j'avais publié dans Le Monde il y a 2 ou 3 mois, mais où je fais écho à cette conférence à laquelle m'a bien invité François. C'était fin 96, je crois que c'était en décembre 96, et où j'étais venu parler un petit peu de l'objet temporel, disons de la pensée husserlienne du temps. Voilà, donc aujourd'hui il s'est passé pas mal d'années, 8 ans, enfin 7 ans et demi depuis ça. Je suis à l'IRCAM, donc je vais parler un petit peu sur l'invitation de François Delalande depuis ma position de responsable de l'IRCAM. Et bien sûr, plus qu'avant, avec. Une tentative de penser le musical. depuis mon incompétence extraordinaire dans le domaine. Mais c'est ça qui m'intéresse, cette pensée musicale depuis l'incompétence. Et je vous parlerai tout à l'heure de l'oreille manchotte et aveugle, qui est la mienne. Et comment, à partir de ce défaut, mais moi je pense que c'est toujours depuis les défauts que les choses défaillent, si je puis dire, mais aussi il les faut, nécessite, qu'il faut les choses, toujours à partir des défauts. Donc j'essaie toujours de penser à partir des défauts. Et c'est vrai que j'essaie de penser, par exemple, la politique aujourd'hui de l'IRCAM que j'essaie d'y mener, à partir de ceux qui sont en défaut par rapport à ce que peut être quelque chose comme l'IRCAM. Ça ne veut pas du tout dire comment faire que l'IRCAM, par exemple, ou d'autres institutions, prennent en charge les énormes problèmes, appelons-les symbolico-politico-sociaux, de nos sociétés industrielles, parce que en aucun cas ces institutions ne peuvent ni ne doivent les prendre en charge. Mais par contre, elles ne peuvent rien faire d'intéressant si elles n'en font pas leur souci primordial. Alors, je vais donc parler de mes soucis en tant que responsable de l'IRCAM, là, une partie de mes soucis. Mais je vais en parler à partir d'un souci qui est mon souci en général. C'est-à-dire, si évidemment je suis à l'IRCAM aujourd'hui, tout comme à une époque je suis passé par l'INA d'ailleurs, même si je vous le dis franchement, je me sens bien mieux à l'IRCAM que quand j'étais directeur général adjoint de l'INA. Bon, l'objet est quand même plus excitant, mieux identifié, moins lourd, et les gens qui travaillent à l'IRCAM sont aussi des gens très. Voilà. Une mission plus claire et plus voilà et donc plus motivée voilà bon. Et puis par ailleurs la musique m'intéresse quand même beaucoup plus que la télévision et après tout l'INA c'est quand même la télévision la radio si je suis à l'IRCAM aujourd'hui comme j'étais à l'INA néanmoins à une époque c'est-à-dire si je mets les mains dans le dans la question schéfférienne de l'administration, pour parler sans Brigitte de ce que tu disais au début, François, c'est parce que mon souci en général, c'est bien la socialisation d'un certain nombre de questions que je retrouve à travers toutes les choses par lesquelles je passe. Et que ce souci, eh bien, je lui ai donné un nom nouveau depuis quelque temps, depuis que je suis à l'IRCAM. Même si j'avais déjà tourné autour de ce nom auparavant, mais depuis un an ou deux, je l'ai appelé le souci organologique. Mais c'est en même temps pas du tout un souci nouveau. C'est la manière dont je le nomme qui est nouvelle. Et c'est évidemment pas pour rien, c'est pas purement opportuniste ce changement de dénomination. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Maintenant, j'emploie ce mot d'organologie générale. Même, je parle d'organologie générale, d'organologie élargie et d'organologie restreinte. Mais donc, mon passage à l'IRCAM a beaucoup déclenché cette nouvelle terminologie, mais en même temps, depuis de nombreuses années maintenant, tout ce que je fais en tant que ce qu'on appelle un philosophe ou un prof de philo, ça tourne autour de l'articulation de la technique et du temps. Bon, ça, c'est pas nouveau, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, une série de livres qui a ce titre générique-là, et dans la relation entre la technique et le temps, la question, c'est l'organologie. Mais l'organologie, entendu en un sens très beaucoup plus vaste, en tout cas, que ce que les organologues patentés entendent par là. J'essaierai de dire pourquoi, si j'en ai le temps tout à l'heure, mais c'est pas sûr que j'en ai le temps, pourquoi, à mon avis, une organologie patentée n'a pas d'avenir si aujourd'hui elle ne se pose pas des questions en termes d'organologie générale, c'est-à-dire de fait social total, tel que tu en as parlé aussi tout à l'heure, le système entre un état technologique de la musique, une pratique musicale, des rôles sociaux instanciés par cette pratique musicale et cette technologie, etc., etc. Je ne suis pas encore rentré même pas dans l'introduction de mon propos. Je voudrais réagir ou rebondir sur des choses que tu as dites. Bon, je connaissais pas ce terme de tour d'ivoire. Par François là, moi j'ai dit il y a quelques temps à propos de l'IRCAM que l'URCAM avait eu une période où il était à 9 et que je pense qu'on le lui a reproché, ça avait failli lui coûter cher d'ailleurs. Il y a eu une période comme ça, une petite dizaine d'années, où Pierre Boulez a créé un œuf et il tenait à ce que ce qui était à l'intérieur de la coquille ne communiquât absolument point avec son dehors. Et il avait raison. Je pense qu'il avait absolument raison. Heureusement qu'il a tenu le plus longtemps possible. Puis au moment où il a senti qu'il ne tenait plus du tout, il est sorti de l'œuf et est sorti Laurent Bell, bon, de l'œuf. Mais il fallait qu'à un moment donné, ça fait partie du travail institutionnel dont Schaeffer parlait, le travail politico. Boulez n'est pas mal, pas mauvais non plus sur ce plan-là. Il fallait à un moment donné passer à un autre stade, à une autre phase de l'histoire de l'IRCAM. Alors, quel est le rôle de la maquette Schaeffer dans la réalisation IRCAMienne? Ça, c'est un sujet compliqué que je ne voudrais pas du tout évacuer. Il n'est pas central et il est très complexe, donc je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai pas en plus certainement la culture que tu as de l'histoire de cette institution et qui est nécessaire pour parler de ça de manière un peu sérieuse. Donc si je rentre dedans, je vais commencer à dire des choses approximatives et vu l'instantané que j'occupe aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'être approximatif. En revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai une hypothèse sur cette question. C'est pas de thèse, mais j'ai une hypothèse. C'est une hypothèse qui est assez forte, lourde, donc fragile, évidemment, qui est éminemment falsifiable. Hein. Je pense qu'entre ce que tu appelais la maquette GRM et la réalisation IRCAM, rappelant donc le rôle de la réflexion de Schaeffer sur ce qu'il appelle la cybernétique, et ça c'est très important de rappeler ça en effet. D'ailleurs, moi j'aime bien qu'on parle plutôt de cybernétique que d'informatique, pour une raison qui mériterait commentaire, je ne sais pas si on aura le temps. En tout cas, derrière ça, il y a quand même eu, il me semble, deux manières d'aborder le problème. Une manière qui est la découverte, je crois, d'une nouvelle question du continu par Schaeffer, dans le sillon fermé, dans. Disons la question de la répétition générale, liée à une technologie analogique, et qui est une véritable révolution dans l'histoire de l'esthétique musicale au moins, mais sûrement plus que ça. Excusez mes mots, hein. Je dis ça après avoir fait une intervention sur Pierre Schaeffer à Radio France, à l'invitation de Francis Denel, c'était avant que je n'arrive ici, en 80, je ne sais plus combien. Voilà. Où j'avais beaucoup insisté là-dessus, en commentant le traité des objets musicaux notamment. Et puis, il y a d'autre part eu un courant affirmant la primauté du discret et de l'écriture. Et évidemment, investissant la cybernétique, plus exactement ce qu'on a appelé à ce moment-là l'informatique musicale, comme étant une espèce de ha ha ha, vous voyez, je vous l'avais bien dit, la technologie, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais l'organologie électronique, revient vers le discret, j'avais donc raison de ne pas vouloir prendre en compte la question du contenu. On en a souvent parlé, vous et moi, quand je dis vous, c'est François Bell, Daniel Turuggi, François Delalande en particulier, mais pas seulement, notamment quand j'étais à l'INA d'ailleurs, mais après aussi, en disant, et puis surtout depuis que je suis à l'IRCAM, en disant que cette question n'est plus de saison. C'est-à-dire que la technologie a énormément évolué et qu'on est dans, moi j'appelle ça l'analogique au numérique. Et que par conséquent, ces surdéterminations technologiques sont un peu dépassées, et que du coup aussi, les difficultés institutionnelles qu'il a pu y avoir entre des institutions comme le GRM et l'IRCAM sont plus de saison non plus. Il y a beaucoup d'autres raisons à ça d'ailleurs. Il y a aussi la décantation historique des choses, heureusement, la prise de distance. Mais il n'en reste pas moins que cette question du rapport entre ce que j'appellerais le discret et le pas discret, pour ne pas dire le continu. Le pas discret au sens de le pas segmenté de manière comme ça par le système diastématique ou la notation, disons l'écriture telle qu'elle se développe pas à partir du XIIIe siècle, comme tu en parlais tout à l'heure. Cette question-là n'est pas du tout résolue. Non seulement elle n'est pas résolue, alors peut-être qu'elle est en plus pas résolue, elle n'est pas soluble. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas soluble. C'est toute la question de l'esthétique qui est derrière cette insolubilité-là. Mais en revanche, elle revient en force, au galop, et dans un dénuement théorique, esthétique, politique, absolument stupéfiant. Je dis un dénuement parce qu'il n'y a pas de débat musical, n'y a pas de débat politique, il n'y a pas vraiment de débat philosophique. Par contre, il y a des questions, comme tu l'as dit avec beaucoup de force et d'insistance, et moi j'adhère à 100% à ce que tu as dit. Il y a des questions qui viennent et qui disent il faut traiter ce problème, reprendre ce problème à bras le corps. Mais alors, je vais maintenant faire un bond ou un déplacement tout à coup en disant j'ai introduit à l'instant cette question analytique-synthétique, parce que finalement c'est à dont je parle, discret, pas discret. Synthèse, la synthèse n'est pas discrète. La synthèse, c'est l'unité massive, la conscience d'unité, comme dirait un phénoménologue par exemple, ou Searle, la conscience d'unité que la mélodie, depuis son début jusqu'à sa fin, je prends la mélodie pour aller vite parce que c'est de ça dont il parle lui, a une unité qui renvoie à ce qu'il appelle un flux absolu, c'est-à-dire une continuité absolue, au sens où on dit que Dieu est absolu. Et puis, il y a l'analytique, au sens où, comme je le dis souvent dans mon séminaire où tu viens régulièrement, François, l'analytique, c'est par exemple, je suis monteur, je travaille à l'INA, par exemple, je suis monteur ou je suis monteur de cinéma, je regarde un journal télévisé, une émission de variété, un film de Buñuel, etc. Je commence par regarder les raccords, les changements de plan, etc. C'est-à-dire que je suis dans une attitude analytique. Et on ne me la fait pas, comme on dit vulgairement. On ne me la fait pas, c'est-à-dire que avant que je ne synthétise, il va falloir se lever de bonne heure. Qu'est-ce que s'appelle de bonne heure, là? Eh bien, il va falloir que j'aie affaire à un bon metteur en scène, ou un grand musicien, et que tout à coup, je sois pris et submergé par la composition qui fasse que j'oublie mon rôle de monteur, j'oublie mon savoir de pianiste ou de prof d'histoire de la musique ou de musicologue, etc. Je laisse tomber toutes ces questions d'analyse et je suis pris par le flux absolu dont parle Husserl. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour qu'il y ait de la synthèse, il faut qu'il y ait de l'analyse. Une synthèse sans analyse ne s'effectue pas. Parce que Aristote le dit génialement, c'est lui qui pose le problème vraiment pour la première fois de manière claire, à mon avis. Sentir ou percevoir, c'est juger, et juger, c'est discerner. Pour sentir, il faut être transi par ce qu'il appelle le passage à l'acte du sensible. Le sensible qui passe de la puissance à l'acte, c'est-à-dire, il faut être, comme il dit, dans l'entelecheia, dans la plénitude, on peut traduire entelechi, mais ça se traduit généralement par actus en latin. Il faut être dans la plénitude, l'avènement de ce qui est senti, telle musique, tel film, tel comédien qui parle, peu importe, tel livre que je suis en train de lire, etc., où je ne lis que si je ne vois plus les pages, les lettres, les mots, etc., si je suis dans la projection imaginaire que j'appellerais tout à l'heure protentionnelle de l'objet. Mais en même temps, pour que ça passe à l'acte dans cette entelecheia, c'est-à-dire dans cette synthèse, dans cette puissance qui passe tout à coup à l'acte et qui fait que je suis transi, et comme le dit Aristote, c'est très important, j'ai dit tout à l'heure, altéré. C'est-à-dire que je n'en ressors pas identique. Sinon, il ne s'est rien passé du tout. Je suis transformé. Il m'est arrivé quelque chose. Et si quelque chose m'est arrivé, c'est que j'ai été, Aristote dit, modifié. Aristote dit, le sens, c'est la modification du sentant par le senti. Il faut que le sentant, c'est-à-dire celui qui sent, soit modifié par ce qu'il sent. Si on projette ça dans le domaine esthétique, au sens de l'esthétique artistique, il faut que mon oreille ne soit plus la même après avoir entendu qu'avant avoir entendu. Et c'est ça le moment de la synthèse, c'est-à-dire la plénitude de l'entelecheia, ce que j'appelais la synthèse, que Aristote appelle là, dans ce cas-là, l'entelechie, ou l'énergeia, parce que c'est quasi synonyme. Hein. L'entelechie, c'est l'énergeia au sens plénier, voilà, au sens optimal. Mais en même temps, Aristote dit, je ne sens que si je juge, krinein. Krinein, en grec, ça veut dire cribler, c'est-à-dire sélectionner, et ça veut dire plus particulièrement discerner. Et donc, je ne passe à l'acte que si j'analyse. On est dans une contradiction. On est dans une tension qui est, il faut à la fois que je synthétise, c'est-à-dire que je sois complètement noyé, submergé par ce qui m'arrive, et néanmoins, pour que ça m'arrive, il faut finalement que ça vienne m'altérer au sens où ça va m'amener à discerner autrement, c'est-à-dire à critiquer. Il faut donc que le jugement soit critique. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce que dit Aristote, il dit, je viens de l'évoquer tout à l'heure, juger, c'est un processus de modification, et le jugement est une séquence temporelle où la submersion qui va m'affecter d'abord, l'entelecheia, va finalement conduire à une résolution, et une résolution qui m'aura changé sous la forme d'un nouveau savoir. Ça nous ramène à la question centrale pour moi du savoir. Qu'est-ce que savoir musicalement? Je ne dis pas savoir la musique. Qu'est-ce que savourer, si vous préférez, puisque le savoir, c'est le sapientiel, le sapide. Qu'est-ce que... Le savoir, c'est la saveur, c'est-à-dire c'est la capacité d'expérimenter des saveurs, pas forcément gustatives. Tout le monde sait ça en mathématiques. Si on ne savoure pas un raisonnement en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une démonstration, on n'est pas dans les mathématiques. Donc, mathématiques, c'est sapide, l'ordre de la sapidité. Il faut une sensibilité en mathématiques. C'est d'ailleurs pour ça que les grandes thèses de mathématiques sont des questions d'esthétique. Et c'est clairement revendiqué comme tel par les mathématiciens. Hein. On parle de la beauté du raisonnement mathématique pour cette raison-là. On doit être affecté par le savoir mathématique d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, comme on est affecté par une œuvre d'art, d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est cette affection-là. Et donc, je dirais tout à l'heure que c'est une affection sur sociétatis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a à voir effectivement avec le social. Donc, je m'achemine lentement, mais sûrement, vers la question que tu m'as adressée. Donc, qu'est-ce que le savoir de la musique? Et est-ce que il y en a aujourd'hui? Qu'en est-il de ce savoir musical aujourd'hui, au début du XXIe siècle, par rapport, par exemple, à celui du XIXe siècle, à celui du XIIIe siècle, à celui du Xe siècle, ou à celui des Grecs du Ve siècle, disons de l'époque d'Eschyle? Ou bien encore par rapport à la pratique des sardes qui existent encore et que décrit Horta Jacob, etc. Je crois que cette question de l'analyse et de la synthèse est une question d'organologie. Donc je vais totalement dans le sens de ce qu'a dit François Delalande tout à l'heure. Mais je crois que nous vivons en ce moment. Et ça a commencé il y a environ un siècle, un peu moins d'un siècle à mon avis, a commencé vers 1920, pour être précis, lorsqu'a été mise en place la société, la compagnie Victor, qui est devenue ensuite RCA. Nous vivons une mutation organologique majeure, une mutation majeure, qui appelle... Alors, une mutation organologique en plusieurs sens. Au sens de ce que j'appelle l'organologie restreinte, c'est-à-dire l'organologie des organologues. Par exemple, je discute en ce moment avec des gens du saxophone MIDI, en tant qu'IRCAM. Qu'est-ce que ça veut dire pour un organologue comme Scheffner ou Satz de parler d'un saxophone MIDI? Ben, ça veut dire qu'il y a tout un pan de la technologie qui n'existe pas dans leur modèle organologique qu'il faut y faire rentrer. Donc ça veut dire que leur organologie doit être profondément révisée dans ses bases pour pouvoir faire face à ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des instruments de musique, stricto Par exemple, il faut faire entrer l'ordinateur, la norme MIDI, la chaîne IFI, etc. Et ça conduit vers ce que j'appelle une organologie élargie, c'est-à-dire une organologie qui prenne en compte non seulement les instruments de musique, non seulement les outils et les machines plus ou moins électriques aujourd'hui qui environnent tout ça, bon, ce micro fait partie, etc., mais aussi la partition, mais aussi la salle, mais aussi tout un dispositif qui renvoie à ce que j'appelle le système technique de la musique en général. Il y a un système technique de la musique, et ce système technique de la musique est beaucoup plus vaste que le système des instruments de musique. Donc il faut bâtir une organologie élargie qui soit capable d'analyser ce système technique de la musique, qui évolue d'ailleurs en ce moment à toute vitesse. Et on n'a jamais connu une telle rapidité d'évolution. Mais troisièmement, il faut raisonner en termes d'organologie générale. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point si j'en ai le temps. Au sens où, et ça va tout à fait dans le sens de ce dont tu parlais tout à l'heure, il faut pour pouvoir penser l'organologique qui soit restreint ou élargi dans le domaine musical, il faut penser l'organologie en général d'abord dans tous les domaines esthétiques et symboliques. Je dis bien et symbolique, c'est-à-dire par exemple les mathématiques, la physique, mais même le droit, etc. Bref, tous les secteurs de production de symboles. Et en fait, tous les secteurs sont producteurs de symboles. Si vous regardez les analyses des anthropologues, par exemple, je parle souvent de ça en ce moment, des chasseurs de phoques, bon, des lapons, le symbole est absolument partout. Le phoque, d'abord, est un symbole, déjà. Il n'y a pas d'activité humaine qui ne soit pas toujours déjà symboliquement investie. Et donc, si je dis l'organologie générale concerne toutes les activités symboliques, ça veut dire que ça concerne toutes les activités humaines, en totalité. La naissance, la sage-femme, les structures de filiation parentale, tout, absolument tout. Tout est surchargé de symboles. Je pose ici en principe que ces surcharges symboliques sont surdéterminées et conditionnées, je dis bien surdéterminées et conditionnées, je ne dis pas déterminées, bien entendu. Mais elles sont surdéterminées et conditionnées par un horizon organologique qui les rend possibles. Cet horizon organologique, on peut l'étudier donc au sein de ce que j'appelle une organologie générale. Ça fera l'objet d'un colloque auquel tu participeras à Cerisy à la fin du mois de mai de cette année. Et l'organologie générale, c'est ce qui étudie le rapport entre les organes, au sens de l'oreille, les yeux, le nez, mais aussi le cœur, le foie, la peau, bref, tout le vivant, d'une part, les organa au sens des instruments, des artefacts, et je ne parle pas simplement des instruments de musique ou des outils, les œuvres sont des artefacts. Les œuvres architecturales, les œuvres musicales sont des artefacts. Et troisièmement, les organisations sociales, qui sont là pour faire que l'appropriation par les corps des organes, des artefacts, produise du lien social. Typiquement, nous sommes là. La question, finalement, c'est à quoi servons-nous, nous, institutions de recherche, plus ou moins publiques, aujourd'hui, dans un contexte que tu as retracé comme ça, que je ressens fortement moi aussi, de sollicitation de l'extérieur. Aujourd'hui, on vient nous voir, en effet. Chacun, on est pressenti avec nos caractéristiques, nos spécificités, mais la nature de la démarche, donc tu as raison, je crois, de dire qu'elle est nouvelle, c'est la même. C'est la même chose qui inspire. Et ça, je crois que c'est lié au fait que nous avons une responsabilité en termes, dans ce que j'appelle l'organologie générale, d'organisation sociale qui produisant des critères de symbolisation. Cela étant, nous vivons une époque de guerre à cet égard. Il y a une guerre entre les organisations. Et la question n'est plus aujourd'hui, par exemple, qui va l'emporter du GRM au DIRCAM, parce que c'est plus du tout ça le sujet. On a dit en partie pourquoi tout à l'heure, mais il y a aussi une guerre au sens où, aujourd'hui, on dit, par exemple, il n'y a plus besoin d'organisation publique pour s'occuper de ce pouvoir de symbolisation. On n'en a plus du tout besoin. Laissons Disney, Sony, Microsoft et Rupert Murdoch s'occuper de la question. Parce que le symbole n'est bon que s'il rapporte. S'il ne rapporte pas, c'est qu'il n'est pas bon. C'est que les gens n'en veulent pas, c'est que c'est de l'agitation d'intellectuels ou de trucs qui n'existent plus, ce qu'on appelait avant des avant-gardes, etc., etc. Bon. Ça, c'est un immense sujet. Et c'est un immense sujet que dans la rencontre qui aura lieu à Cerisy, d'ailleurs, je souhaite poser avec des musiciens, bien évidemment, il y aura une journée entière consacrée à la musique, mais aussi avec des cinéastes, avec des metteurs en scène de théâtre, avec des écrivains, des poètes, avec le monde des arts plastiques, et toute la question de ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est surexposé à ces problèmes, mais qui n'a pas les mêmes problèmes que nous, parce que c'est un marché spéculatif, et que nous ne sommes pas un marché spéculatif. Nous, je parle de la musique dite savante, sommes restés dans une structure somptuaire. Et ça, c'est une énorme différence entre ces deux questions, entre le monde de la musique et le monde des arts plastiques. Au cinéma, c'est encore un tout autre problème. Le cinéma est depuis l'origine une industrie. Une industrie culturelle. Il a donc son économie, bon, même si il y a des gens qui disent aujourd'hui, moi-même d'ailleurs, que nous vivons le temps des derniers cinéastes. En tout cas, nous vivons la fin d'une époque où un certain type de cinéaste qui faisait de la recherche peut faire cette recherche dans le monde industriel. C'est accablant. Et puis en même temps, il se passe des choses nouvelles. Parce qu'il y a des gens qui maintenant utilisent des caméras DV, etc., et font d'autres choses. Et c'est peut-être là que ça se passe, que ça se déplace. Ça, c'est proche de ce qui nous concerne, puisque tu as parlé du home studio tout à l'heure, et de cette évolution. Et du million de compositeurs qui est là derrière. Alors, pourquoi ce million de compositeurs, tiens? Et comment ça se fait? Comment est-ce qu'on interprète ça? C'est Putslajut qui a soulevé cette hypothèse-là. De quoi parle-t-on quand on dit ça? Moi, quand j'ai lu ce rapport, je l'ai lu comme toi, qui a été fait au ministère de la Culture, il me semble, j'ai pensé tout de suite à un passage de Glenn Gould, à la fin d'un des grands textes qui se trouve dans le bouquin de Mont-Saint-Jean, Le Dernier Puritain, où Gould dit on va voir se développer une pratique de la musique comme le langage, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui parlent. Il y en a qui parlent comme Molière, ou comme Flaubert, ou comme Proust, puis il y en a qui parlent comme on parle dans le métro, mais tout le monde parle. Et il disait, ben, on va voir, avec toute cette technologie, tout le monde se mettre à faire de la musique. Bon. Maintenant, tout n'est pas de la même nature. Mais aucun énoncé oral n'est méprisable, hein. Tout le monde ne parle pas de la même manière, mais tout ce qui est oral, pour quelqu'un qui s'intéresse à la parole, voir ce que dit Marcel Proust du rôle de Françoise, sa bonne, dans son destin littéraire, hein. Les fautes de Françoise sont en partie à l'origine des traumas qui ont permis à Proust de devenir écrivain. C'est ce qu'il dit, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, comment se fait-il que tout à coup, 1 million de personnes, d'après ce rapport, pratiqueraient quelque chose qui a à voir avec la synthèse? La synthèse, c'est-à-dire la position ensemble, la mise ensemble, le rassemblement d'éléments, disons, sonores, en vue de produire quelque chose qui se pense en général comme musical. Je pense que ça, c'est évidemment en soi une excellente nouvelle. Moi, je pense c'est une je prends ça moi, comme une excellente nouvelle, à condition qu'on l'analyse bien. Mais je pense aussi que c'est un signe de détresse. Et j'ai développé cette idée dans cet article de journal là, dans Le Monde, il y a au mois d'octobre, que nous vivons une époque de misère symbolique. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que il faut périodiser l'organologie. J'y reviendrai tout à l'heure sur ce que j'appelle les époques organologiques, les grandes époques organologiques, au sens large du terme, pas simplement dans le domaine musical. Mais à chaque fois, il faut le faire secteur par secteur, on ne peut pas le faire pour tout. La musique, il ne se passe pas du tout la même chose en musique qu'en architecture au XIIIe siècle, par exemple. Même s'il se passe des choses communes, justement, aussi. Parce qu'il y a des éléments qui sont liés au graphique, d'ailleurs, qui sont communs. Donc, on peut faire une organologie générale qui voudrait embrasser la totalité des phénomènes. Mais en même temps, quand on veut vraiment travailler sérieusement sur ces questions, il faut sectoriser et aborder les choses par spécialité d'organe, si je puis dire, c'est-à-dire l'ouïe, l'œil, etc. Même s'il y a de toute façon toujours au bout du compte un corps, c'est-à-dire une synesthésie. En tout cas, on peut périodiser l'organologie, l'histoire de l'organologie générale. On peut montrer que cette périodisation met en évidence des fonctionnalisations esthétiques et symboliques. Typiquement, la musique du XIe siècle, par exemple, à l'époque de Guizarrezzo, a vraiment une fonction canonico-religieuse, évidente, clairement exposée, revendiquée, etc. Au XVIIe siècle, on est déjà dans tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Même dès le XIVe, les choses évoluent énormément sur ce plan-là. Et puis au XIXe siècle, on arrive à ce que Walter Benjamin a cru pouvoir analyser comme une défonctionnalisation complète de ce qu'il appelle la valeur cultuelle de l'œuvre d'art, que ce culte soit religieux, monarchique, politique, ou autre, hein, à la limite, ou militaire, bon, peu importe. En tout cas, Benjamin dit bien ça, il parle pas de la musique particulièrement, mais de l'art en général. Au XIXe siècle, il y a une défonctionnalisation de l'art, c'est-à-dire que l'art va s'afficher pour lui-même, et la musique, comme dirait Barthes à propos de littérature, avance en se désignant, en montrant son masque du doigt, c'est-à-dire en se désignant lui-même comme littérature, en disant je suis de la littérature, je suis de la musique, je suis de l'artefact ou de l'artifice pur, je suis apollinien et dionysiaque au sens nietzschéen, mais de manière clairement, comment dire, purement symbolique. Et donc je me suis défonctionnalisé, dit Benjamin. Je suis pas sûr qu'il ait absolument raison. Je pense qu'il a raison, et en même temps, je pense que ça mériterait ce propos-là des nuances, enfin des affinages. C'est vrai, c'est ce que dit Georges Bataille à propos de Manet. Malraux le dit aussi, enfin beaucoup de monde le dit. C'est vrai, et en même temps, je suis pas absolument sûr que ce soit aussi vrai que ça. C'est-à-dire que je pense que dès le 19e siècle, mais sans que le monde artistique n'en ait conscience, ça fait déjà système, c'est déjà repris dans un vaste système qui est en gestation à cette époque-là, du 19e siècle, donc qui ne va se produire qu'au 20e siècle, et peut-être surtout maintenant au 21e siècle. Ça ouvre sur une nouvelle époque symbolico-esthétique et organologique, qui est notre époque. Et qui produit ce que j'appelle une misère symbolique. Alors, de quoi est-ce que je parle sous le terme de misère symbolique? Eh bien, je parle de ce que d'abord André Leroy Gourhan a appelé la perte de participation. J'en ai parlé dans un petit livre, Aimer, c'est nous aimer, qui est paru il y a 2 mois, et que Leroy Gourhan analyse dans le deuxième tome du Geste et de la parole, où il dit, c'est un fait et un fait inéluctable que l'évolution de ce qu'il appelle l'extériorisation, en quoi consiste pour lui l'hominisation. Pour lui, l'hominisation a commencé il y a 4 millions d'années par l'extériorisation progressive mais inéluctable et totale des fonctions du vivant. Le squelette d'abord, le muscle ensuite, le système nerveux, la mémoire et enfin l'imagination. Il analyse par exemple la télévision de manière extrêmement incroyablement lucide, parce que c'est en 64. Hein. Extraordinaire ce que dit Laurent Gourhan en 64 de la télévision. Alors que la télévision, à l'époque, c'est encore un phénomène absolument récent. Hein. Ça n'est devenu un phénomène social que depuis 4-5 ans, à cette époque-là, en France, je veux dire. Il dit, on va vers une hyperspécialisation et une décomposition du symbolique. Je dis bien décomposition. Tu parlais de 1 million de compositeurs. Ben ce million de compositeurs est produit par une décomposition. Pourquoi décomposition du symbolique? Parce que des technologies sont apparues, technologies en particulier, mais pas seulement, en particulier de l'image et du son, mais également les mnémotechnologies, qui permettent une séparation des producteurs et des consommateurs. Et qui vont rendre possible ce que je vais appeler, moi, non pas une défonctionnalisation au sens de Walter Benjamin, l'art qui se serait défonctionnalisé en devenant l'art pour l'art, mais un désarmement du destinataire qui n'a plus de compétences motrices, lectrices, analytiques, en quoi que ce soit, et qui devient victime d'un flux industriellement produit pour lequel on a besoin de fabriquer des hypermasses, et donc moins le destinataire est qualifié, mieux ça vaut, parce que plus il est qualifié, moins il est massif. Et à partir de là, on va commencer à produire un dispositif de symbolisation nouveau, tout à fait nouveau, qui a une fonction très précise, qui est de faire fonctionner le marketing, c'est-à-dire de faire fonctionner la machine économique. Je refais un petit point, un petit retour en arrière. Au niveau macro-historique ou proto-historique, si on regarde ce que c'est que l'histoire de l'humanité, si on est d'accord avec le roi Gouran, ça peut se discuter. Si on est d'accord avec le roi Gouran, l'humanité, ça fait au moins 3 millions d'années que ça existe. C'est ce qu'on appelle l'Australopithèque. En tout cas, ça existe depuis qu'il y a un être vivant qui taille des outils. Moi, je suis d'accord avec cette définition-là de l'humanité. Ça fait très longtemps. Depuis quand y a-t-il des pratiques proprement symboliques? Alors, qu'est-ce qu'on appelle proprement symbolique? C'est difficile à dire. Mais pour le roi Gouran, ça existe depuis le Néandertal, c'est-à-dire 300 000 ans. Des pratiques véritablement où on commence à s'intéresser aux couleurs, aux formes, où le néandertalien est un être humain qui est étonné. Par exemple, il ramasse des fossiles. Voilà, c'est l'exemple, un des exemples que donne le roi Gouran. Il garde des fossiles. C'est-à-dire quand il voit des formes étranges, des spirales d'escargots, il les garde, il les met de côté. Il les collectionne. Déjà, il y a 300 000 ans, des collectionneurs. C'est extraordinaire, ça. Et évidemment, le roi Gouran souligne qu'il a aussi des pratiques funéraires attestées, avec des sépultures, etc., etc. Et puis, il y a le moment qu'on appelait avant avec bataille de Lascaux. Maintenant, on dit c'est la grotte Chauvet. Je dirais que peu m'importe. C'est le paléolithique supérieur. Bon. Où on a des pratiques symboliques véritablement attestées, au sens où nous, nous disons c'est de l'art. Bon. Il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a des gens qui pratiquent pour eux-mêmes, les images, les sons, probablement les danses, etc., etc. Pour eux-mêmes, c'est tout un débat. Alors, Bataille dit oui pour eux-mêmes, puis un autre dit non, non, c'est pour des pratiques magiques, pour attraper du gibier, etc. Bon, les sons, on s'en fiche à la limite. Moi, je crois que rien n'est jamais pour soi-même, en réalité. Je ne crois pas du tout à cette histoire de l'art pour l'art. J'ai jamais cru, d'ailleurs. Mais il faut attendre le néolithique pour qu'apparaissent des mnémotechniques en propre. C'est-à-dire de véritables systèmes qui vont fixer pour but de conserver la trace d'un certain nombre de choses et de transmettre des savoirs symboliques. Pas simplement des savoirs moteurs, ça, la transmission de savoirs moteurs, ça existe depuis l'hominisation, depuis le début de l'hominisation. Mais par contre, transmettre des savoirs d'expérience symboliquement, par exemple en disant, voilà mon enfant, comment il faut vivre, comment il faut. Les maximes morales, les conduites qu'il faut adopter, etc., etc. Ça arrivera tardivement. Ça va arriver avec les grands empires. On va voir apparaître ça en Mésopotamie. Ça va être lié à toutes sortes de pratiques, à la fois astronomiques, de pouvoir religieuses, etc., etc. Et puis finalement, ça va conduire au système, ce que j'appelle les mnémotechniques, tel que j'entends par là, des dispositifs qui ont vraiment vocation à transmettre une mémoire. Donc, ça va donner les premiers systèmes de notation dans toutes sortes de domaines. Enfin, dans toutes sortes de domaines, pas dans tant de domaines que ça. Principalement la langue et la musique. Et puis après, ça va s'étendre. Alors, j'en parle et j'insiste sur ce plan parce que ces dispositifs mnémotechniques vont devenir l'univers symbolique en propre. Or, cet univers symbolique en propre va être un précaré ou un champ régalien. Le précaré de qui? Des prêtres, des scribes, du pouvoir magique, puis religieux, puis politique, qui va s'entourer d'une espèce d'aura, et qui va dire, et qui va poser avec une durabilité extraordinaire, c'est-à-dire que ça, pendant 10 000 ans, ça va être comme ça. Plus de 10 000 ans. Il y a d'un côté le monde du symbole. Et il y a de l'autre côté le monde de la production. Comme dirait Nietzsche, il y a d'un côté les gentils, et il y a de l'autre côté les vilains. Il y a ceux qui sont affectés et qui savent être affectés, et qui sont affectés pour les autres, par le beau, le vrai, le juste, que ça comme vous voulez, ou qui ont aussi la vocation, qui sont prêtres, qui sont moines, qui sont héros, qui sont... Et puis il y a le reste, la valetaille, les esclaves, et les gens qui sont destinés à la subsistance, c'est-à-dire à reproduire la possibilité pour l'espèce de se maintenir en vie, etc. Et ce sont deux mondes qui ne communiquent absolument pas. Et jusque pratiquement au XXe siècle, ça ne communique pas. Proust ne parle que de ça. La fin des Guermantes, c'est la fin de ça. Les Verdurin, c'est le début d'autre chose. C'est le début de ce que Flaubert appelait aussi l'art industriel, c'est-à-dire l'éditeur de l'éducation sentimentale qui commence à dire « je vais faire du fric avec le beau, quoi ». Le marchand d'art, mais le marchand d'art en un sens qui n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de Laurent de Médicis, parce qu'on dit souvent « mais il y a aussi un marché de l'art à l'époque ». Mais ça n'a aucun rapport, strictement aucun rapport. C'est pour ça que je suis en désaccord total avec Arthur Danteau, quand il a dit sur France Culture il n'y a pas très longtemps, il y a toujours eu un marché de l'art. Pas vrai du tout. Par contre, ce qui, je crois, est vrai, c'est qu'à partir du XXe siècle, sachant qu'on passe là par des gens importants comme Nietzsche, comme Freud, etc., qui découvrent l'importance du désir et qui étudient également la société industrielle, parce qu'aussi bien Nietzsche que Freud s'intéresse énormément à la question de la société industrielle, et c'est pas pour rien que Freud dit que c'est maintenant et uniquement maintenant que la psychanalyse pouvait émerger, parce qu'elle engendre quelque chose de l'ordre du névrotique qui ne pouvait pas émerger avant, et c'est lié à des conditions historiques très importantes, enfin très déterminées, et il va s'en expliquer de manière claire, en particulier dans le malaise dans la civilisation, dans le malaise dans la culture. On a affaire à un processus nouveau qui est que, tout à coup, l'industrie étant apparue, elle a besoin de provoquer artificiellement du désir d'objet et de créer ce qu'on va appeler avec Marx un fétichisme de la marchandise nouveau, plus efficace, parce que la machine industrielle étant structurellement, endémiquement en système de surproduction, il faut absolument absorber cette surproduction. Il faut donc développer une esthétique d'un genre tout à fait nouveau, une esthétique fonctionnelle, très clairement fonctionnelle, qui a pour but de capter les temps de conscience par les images, par les sons, mais par aussi par toutes sortes d'autres voies, pour leur faire adopter des types de comportements. Et pour ça, on va utiliser évidemment les vertus esthétiques du symbolique. Et c'est pour ça que Edward Barney, le neveu de Sigmund Freud, va devenir le fondateur de la première agence de marketing aux États-Unis. Et qu'il va mettre en œuvre une technique de maîtrise des découvertes de son oncle, c'est-à-dire les lois de l'inconscient, ce qui va être parfaitement compris par Vance Packard, qui va écrire un livre en 1958 qui s'appelle La persuasion clandestine, où il va dénoncer la manière dont les agences de publicité, ce qu'on appelle alors à cette époque-là, c'est-à-dire 20 ans après Edward Bernays, l'advertising, la manière dont les structures de l'advertising américain vont utiliser le savoir de ce qu'il appelle le subconscient. En Amérique, on parle du subconscient, pour manipuler l'inconscient des consommateurs et développer, alors il commence à annoncer le développement des industries culturelles, c'est-à-dire qu'il poursuit ce qu'avait commencé à dire Adorno, etc. Et qu'est-ce que ça va produire ça? Ça va produire beaucoup de choses, mais pour moi, deux choses principales par rapport à aujourd'hui. Et je le dis dans notre dialogue GRN-IRCAM en particulier. Hein. Ça va produire d'une part une désymbolisation, au sens où on va avoir une perte de compétence à émettre des symboles, ce qui est une rupture avec ce que Laurent Gouan avait décrit comme la condition esthétique plénière. Il disait, pour qu'il y ait vraiment une vie esthétique, il faut qu'il y ait une participation esthétique, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui reçoit un événement esthétique puisse le restituer d'une manière ou d'une autre, pas forcément sous la même forme. Je suis capable d'écouter de la musique sans être musicien. Mais il faut que j'ai un circuit esthétique où je vais le rendre. Et quand je dis un circuit esthétique, ce n'est pas forcément un circuit artistique d'ailleurs, mais c'est un circuit de symbolisation. Il faut que j'ai une autorité symbolique quelque part, comme on dit aujourd'hui, pour pouvoir restituer ça. Et ça passe néanmoins par des savoirs instrumentaux. Et je reviens à l'organologie. Je dis des savoirs instrumentaux en un sens large, des savoir-faire. Il faut que j'ai une compétence et des savoir-faire pour pouvoir réinscrire mon affectio societatis, là je reprends le terme de tout à l'heure, La danse sociale, précisément, pour appartenir au social. Or, avec l'industrialisation, prenons le cas de la musique, je peux accéder à de la musique sans avoir aucune pratique musicale. Et alors, quand je dis ça, comprenez-moi bien, hein, je ne dénonce pas cette situation. Je l'énonce. C'est pas la même chose. Je ne la dénonce pas, parce que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis manchot et aveugle sur le plan musical, donc largement sourd. Et néanmoins, je suis directeur de l'IRCAM et je considère que j'ai une certaine capacité à écouter la musique. Bon, j'ai fait un peu de saxophone dans ma jeunesse, quand même, mais je suis néanmoins totalement manchot et aveugle. Je suis donc pas en train de dénoncer cette situation, je suis en train de l'énoncer, d'abord pour dire tout ce qu'elle produit comme misère. Elle produit une très grande misère, parce que par exemple, la musique telle que nous la concevons dans les conservatoires est une musique qui a été conçue pour le compositeur, pour l'instrumentiste, pour le musicologue, etc., etc., comme étant une musique issue de la tradition, bah, qui a émergé vers le XIIIe siècle, qui a connu son apogée, disons, au XIXe siècle, et qui est la tradition de la musique écoutée par celui qui l'écoute sur son piano. C'est-à-dire qu'il a chez lui un piano parce qu'il n'a pas de phonographe, ça n'existe pas. Donc il faut bien qu'il l'écoute quelque part, et pour l'écouter, il faut qu'il la joue. Ça veut donc dire que cette musique, elle est destinée à une oreille qui a une maîtrise instrumentale, motrice, donc une corporéité, parce qu'un instrument c'est une corporéité, une maîtrise aussi symbolique, c'est-à-dire une capacité de discrétiser, notamment déchiffrer une partition, c'est avoir une capacité analytique, donc une double capacité analytique à la fois symbolique et motrice, et c'est à cette oreille-là que s'adresse cette musique. Et en même temps, à partir du moment où la société Victor se développe, Victor, je vous rappelle qui c'est d'abord une société qui s'empare du phonogramme, qui crée un catalogue. Il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais je parle de Victor parce que c'est la grande société. Et qui va failli disparaître dans les années 20, vers 1925, parce qu'en 1925, la radio arrive. Et que la pratique du disque va tout à coup s'effondrer. C'est-à-dire que le marché du disque va se casser la figure. C'est Joël Farchi qui décrit ça dans un de ses bouquins. Et Victor va finalement acheter des stations de radio. Il va faire le pas, c'est-à-dire de dire, on désinvestit l'industrie phonographique, on investit dans les réseaux de radio, et ensuite il va réinvestir dans l'industrie phonographique, il va faire un système à la fois horizontalement et verticalement d'ailleurs intégré. Il va devenir un mastodonte qui va quand même se casser la figure, puisque RCA est racheté par Thomson en 1983, c'est-à-dire par un groupe français. Alors ça va donner des tas de choses nouvelles que j'ai étudiées. La première fois que j'ai fait un travail pour l'IRCAM, c'était en 1985, à la demande de Jean-Baptiste Barrière, qui était à l'époque responsable de la pédagogie de l'IRCAM. Et j'ai écrit à cette époque-là un article sur Charlie Parker, en montrant que les jazzmen, Parker en l'occurrence, se sont emparés du phonogramme, pas tout à fait évidemment dans l'esprit de Pierre Schaeffer, mais néanmoins, il y a quelque chose à voir. C'est-à-dire comme d'un instrument d'écriture. Moi, j'ai toujours dit, je le maintiens plus que jamais, le jazz n'est pas du tout une musique de tradition orale ou même simplement de la musique improvisée. C'est une musique écrite, mais écrite en un sens nouveau, en un sens inscrite dans un sillon qui est répétable, parce que la question dans tout ce qu'on vient de dire, c'est la répétition. Un malaise que j'éprouve souvent quand je sors des concerts de l'IRCAM, à l'espace de projection, c'est que je sais que ce concert, si j'ai pas pu aller à la générale en particulier, etc., je ne l'entendrai souvent qu'une fois. Et moi, je sais d'expérience qu'une musique qu'on n'entend qu'une fois, on n'entend pas. Enfin, on l'entend parfois, parce que elle est sur un circuit, un philum heureux d'attente qu'on a. Bon, elle s'inscrit, ou on connaît le musicien, tout simplement. Bon. Mais en règle générale, ça ne se produit pas, l'entendre tout de suite. Aujourd'hui, on a une mutation organologique sur le plan de la répétition. Ce n'est pas un hasard si les millions de compositeurs dont on parle là sont des gens qui utilisent des échantillonneurs, etc., etc., c'est-à-dire des machines de répétition d'un nouveau genre. Je vous ai dit, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire un mot. Après, je passe à mon deuxième point. Je vois qu'il va falloir que j'accélère, il faudrait qu'on ait le temps de discuter quand même suffisamment. Je vous ai dit misère symbolique par perte de participation, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est perte de narcissisme. C'est le versant plus politique de mon sujet. J'ai beaucoup parlé de ça ces derniers temps. J'ai un petit bouquin que j'évoquais tout à l'heure est essentiellement consacré à ça. Je pense qu'une société n'est bonne, n'est viable, n'est vivable, habitable et durable que si elle est capable de produire un narcissisme collectif. Ce dont je parle là, ça n'est pas ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences. Hein. Le narcissisme des petites différences, c'est le petit nationalisme qui donne le grand fascisme et le nazisme. Non, ce dont je parle là, c'est la capacité, tout simplement, d'appartenir ou de s'individuer dans un groupe social à l'intérieur duquel on est capable de s'épanouir. De s'épanouir en affirmant son individuation, la singularité de son individualité, de son individuation, à l'intérieur de l'affirmation de la singularité du groupe à l'intérieur duquel on s'individue. Typiquement, le GRM, par exemple, c'est un groupe social avec son histoire, c'est une individuation qui a été initiée par une homère, qui a catalysé une homère et que cette catalyse s'appelait Pierre Schaeffer, donc, qui continue sa vie aujourd'hui à travers Daniel Théogier, qui est passé par François Bell. Et ce sont des musiciens, ce sont des gens, etc. Là-dedans, il y a tout ça, c'est une singularité. Donc, à l'intérieur de cette singularité, il y a plein de singularités qui sont très souvent en conflit les unes avec les autres, et c'est toujours comme ça. Et ça ne peut être que comme ça. C'est ce que les Grecs appellent l'éris, ce conflit. Mais ça ne fonctionne que s'il y a du retour symbolique. C'est-à-dire s'il y a un retour narcissique, au sens non pas du narcissisme pathologique que les psychanalystes soignent dans les névroses, par exemple, le narcissisme excessivement égocentré, mais au sens où il y a ce que j'appelle moi un narcissisme primordial, c'est-à-dire tout simplement la capacité de projeter un idéal du moi ou un idéal du nous. On ne vit pas heureux sans cette capacité de projection. Or, je crois que la désymbolisation dont je parlais tout à l'heure conduit à une dénarcissisation. Et ça, les psychanalystes et les psychiatres savent très bien ce que veut dire la dénarcissisation, c'est la folie. Un être dénarcissisé, c'est un psychotique. Et c'est un psychotique extrêmement dangereux. J'ai parlé de Richard Durne parce que pour moi, Richard Durne fait partie de cette dénarcissisation. Mais il se trouve que je pose que la dénarcissisation est généralisée, c'est-à-dire que elle est partout aujourd'hui et qu'elle affecte pas simplement les classes populaires ou les gens qui sont comment dire, socialement désavantagés, comme on dit, elle affecte tout le monde, y compris les artistes les plus reconnus. Parce que la non-reconnaissance, par exemple, de la musique aujourd'hui par toute une partie de la société, narcissiquement, est très dure à vivre pour les musiciens. Et c'est aussi cette souffrance-là dont je parle. Dont je ne parle pas que de Richard Durne, des intégristes qui ont fait chanter le Wartime Center et du vote pour le Front National, parce que c'est évidemment comme ça aussi que j'analyse le vote pour le Front National. Alors, voilà comment je situe la responsabilité des institutions de recherche que nous sommes. C'est à l'intérieur de cette situation politique-là. Et je crois que cette situation politique-là ne peut pas durer. Je pense qu'elle ne peut pas durer, d'abord parce que le monde industriel va à sa perte dans cette situation. Parce que pour moi, des phénomènes comme la vache folle, mais il y en a plein d'autres, les désinvestissements, ce que j'appelle le phénomène de dégoût industriel, sont des phénomènes qui sont en fait provoqués par ce truc-là. Ils sont très fantasmatiques. La vache folle, c'est un truc très fantasmatique. Objectivement, c'est un délire, cette histoire de prion. N'empêche que les faits étaient la ruine de la filière de la viande bovine en France, et pour un bon bout de temps. Il y a eu des tas d'exploitations qui ont disparu, etc. Et ça ne se redresse pas. Hein. Ce ne sont que des symptômes. Ce sont des symptômes d'un dégoût du mode de vie industriel, qui est en fait lié, non pas simplement à des questions d'écologie, etc., comme on le dit souvent, mais qui sont beaucoup plus foncièrement liées à un problème de désaffection. Aussi, au sens où l'affection, ça suppose du symbolique, du narcissisme, etc. C'est-à-dire que c'est l'affect tel que l'affect, c'est la question de l'aesthésis, c'est-à-dire l'esthétique. Toutes ces questions, je crois que si on veut les étudier sérieusement, c'est complexe d'ailleurs parce que ça mobilise des tas de compétences, donc ça nécessite de se mettre vraiment dans un horizon très pluridisciplinaire. Bon. Il faut en plus traiter des questions liées au désir, donc il y a des concepts assez complexes qui passent forcément par Freud, Lacan et un certain nombre de gens comme ça, donc, qui sont les profondeurs les plus cachées de l'âme humaine, pour parler dans le langage de Kant. Ça passe aussi par la philo, ça passe par l'histoire, ça passe par l'anthropologie. Ça passe par les pratiques artistiques en tant que telles, parce que ça ne peut pas être simplement des questions visées conceptuellement. Ça doit être exploré sensiblement, c'est-à-dire à travers l'expérience esthétique, pour lutter contre quoi? Contre ce que j'appelle le conditionnement esthétique. Donc, mon propos dans l'article du Monde, c'était de dire, l'industrie a décidé de conditionner esthétiquement les yeux, les oreilles, les corps, etc. Et c'est ce qui fait obstacle à ce que j'appelle une expérience esthétique. Pour moi, il n'y a d'expérience esthétique que comme déconditionnement esthétique. Pour moi, un travail, une musique m'importe, ou un roman m'importe, ou n'importe quel événement symbolico-esthétique ne m'affecte que dans la mesure où il me déconditionne de moi-même en tant que mouton, en tant qu'être grégaire. Je suis grégaire, nous sommes foncièrement grégaires, originairement grégaires. Et l'œuvre d'art, et l'œuvre de l'esprit en général d'ailleurs, est là toujours pour nous dégrégariser, c'est-à-dire pour nous redonner un potentiel de singularité qui va nous permettre, en rendant ce qu'on a reçu à travers ce potentiel de singularité, de nous singulariser nous-mêmes, à travers la singularité de l'expérience esthétique qu'on a pu faire, à travers un film, à travers l'écoute d'une pièce de musique, ou la contemplation d'une œuvre d'art plastique ou d'architecture, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte guerrier, de guerre esthétique. Je pense que l'esthétique est devenue le fer de lance de l'industrie, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui étudient au niveau le plus élevé du management, des sciences du management aux États-Unis. La dernière analyse économique que je connais sur ce sujet, c'était Rifkin qui l'avait faite, mais il n'est pas le seul. Par exemple, Shiller a aussi fait des analyses comme ça. Rifkin dit que c'est 40% du business industriel mondial, l'activité de captation esthétique. 40%, c'est absolument colossal. Vous savez que le cinéma, l'audiovisuel est passé devant Boeing en termes d'importance stratégique pour les États-Unis, hein, à tous égards, économiquement, contrôle des consciences, structuration du système technique mondial et industriel, etc., etc. Bon. Donc nous sommes dans un contexte de guerre esthétique économique. Et dans ce contexte-là, la grande industrie, le grand capitalisme industriel, qui a besoin de faire des économies d'échelle mondiale, qui a donc besoin de laminer ce que j'appelle les barrières esthétiques, fait la guerre à tout ce qui est la singularité esthétique, c'est-à-dire fait la guerre aux arts. Alors il y a une manière de lui faire la guerre variable. Il y a une manière de faire la guerre qui est une très bonne manière, qui est d'acheter les artistes. Alors disons, travaillez pour nous. Si vous travaillez pour nous, on vous mettra dans des réserves là-bas, vous nous servirez d'éclaireur de temps en temps quand on a besoin d'aller attaquer les Sioux. Donc on vous donnera une belle vallée et tout ça, éventuellement on vous apportera du whisky, voire des Winchester. Et de temps en temps, vous viendrez nous servir à. Parce que l'art est aujourd'hui caractérisé comme le laboratoire de recherche-développement de la guerre esthétique. Si vous rentrez dans le système en question, si vous travaillez pour nous, alors vous faites de la recherche-développement pour le conditionnement esthétique. Et tout le monde peut servir à ça. Hein. Schaeffer, Boulez peuvent parfaitement servir à ça. Est-ce qu'on sert à ça? Pour moi, c'est ça la question. Moi, je dis non. Et je dis non. Ce n'est pas que j'en veuille à l'industrie. J'en veux pas du tout à l'industrie. J'ai toujours travaillé pour l'industrie. Enfin, pas toujours, mais en tout cas depuis un certain nombre d'années, je travaille toujours en vue de l'industrie. Donc, je m'intéresse énormément à l'industrie. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autre avenir à l'humanité qu'industriel. Donc, je suis pas du tout quelqu'un qui dit faut revenir en arrière. C'est pas du tout ça. Mais par contre, je pense que la société industrielle actuelle est arrivée à ses limites et qu'elle est en train de se ruiner à cause de cette question esthétique. Et donc, je pense que nous, les institutions de recherche publiques dans le domaine symbolico-esthétique, nous devons être capables de contribuer à l'émergence d'autres manières de voir. Et ça suppose évidemment que nous posions le problème de la proposition d'une œuvre, parce que c'est finalement là que ça se passe, à partir d'une véritable politique de la question. Alors pour élaborer cette question politique, je pense qu'il faut raisonner il faut faire des analyses de ce que j'appelle les époques organologiques, secteur par secteur. Typiquement sur le mode de ce qu'a fait François de Lalande tout à l'heure. Moi, j'appelle ça de la généalogie esthétique. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'on aurait besoin aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie d'amorcer à l'IRCAM d'ailleurs, en particulier dans mon séminaire, mais pas seulement, on aurait besoin aujourd'hui de faire des analyses systémiques et intégrées de l'évolution, de ce que j'appelle les instanciations musicales à travers l'évolution organologique. Les scènes, par exemple, d'événements musicaux. La scène religieuse. La scène communielle. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer, que Guy d'Arezzo, qui, comme tu le rappelais tout à l'heure, a développé son truc pour patrimonialiser, en fait, tout ça, et le rendre mieux transmissible. Bon. Qu'est-ce qui va faire que ça va faire apparaître quelque chose qui est l'apparition du compositeur au sens où nous l'entendons, au sens moderne, actuel, mais en même temps avoir des effets en chaîne énormes sur la place de la musique par rapport au système religieux, etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'il faudrait analyser très en détail. Et pour analyser ces choses, il faut, je reviens à mon sujet de départ, analyser le rapport analyse-synthèse. Et voir comment ce rapport analyse-synthèse s'accomplit ou ne s'accomplit pas toujours selon des conditions organologiques données. Je vais essayer d'aller vers une conclusion pour qu'on ait le temps de discuter, parce qu'après, comme je crois que j'ai tué dans pas trop longtemps, je vais essayer d'aller assez vite vers la conclusion, là. Mais avant de le faire, je fais un petit retour vers cette question de l'objet temporel qui m'obsède, sur laquelle je reviens tout le temps, et qui en fait me permet d'abord de comprendre ce qui se passe quand je regarde moi-même un film, quand j'écoute une musique, mais qui en réalité rend compte de tout ce qui est la temporalité de la conscience en général. Or, comme Kant nous l'a très bien montré, toute affection est toujours temporelle. Quand je regarde un tableau, mon regard est temporel. Il se déroule temporellement, c'est un parcours en réalité. On le sait aujourd'hui très bien, avec des données scientifiques très précises. En fait, toute perception et tout événement sensible est toujours surdéterminé par des questions temporelles, telles que l'analyse de ce que les objets temporels au sens strict du terme a permis de caractériser cette temporalité. Et là, je voudrais rappeler très rapidement que ce que nous apprend l'objet temporel, c'est qu'il y a des rétentions et des protentions. Quand j'écoute une mélodie, par exemple, de Die Husserl, pardon de répéter ça, je le répète très souvent, parce que c'est pour moi devenu au cœur de. Enfin, c'est un de mes outils principaux avec le concept de système technique, avec l'individuation de Simondon, etc. Quand je fais l'expérience d'un objet temporel musical comme une mélodie, je produis ce que Husserl appelle des rétentions primaires, c'est-à-dire j'agrège primairement des notes ou des sons qui vont se constituer dans leur musicalité par leur agrégation primaire, c'est-à-dire qu'ils dans le fait qu'ils vont être perçus comme étant coprésents, alors même que la première note est passée au moment de la dernière note. Mais pour que la dernière note soit la dernière note de cette mélodie, il faut qu'elle garde en elle, qu'elle retienne primairement, comme dit Husserl, la première note de la mélodie et toutes celles qui l'ont conduite à la dernière note. C'est ça qu'on appelle la synthèse, la synthèse de l'objet temporel. Par ailleurs, Husserl montre qu'il y a dans la synthèse rétentionnelle primaire des protentions, que j'appelle moi-même primaires, lui il ne les appelle pas comme ça, mais moi je les appelle primaires, vous direz pourquoi tout à l'heure, qui sont produites par ces rétentions primaires. Parce que les rétentions primaires induisent, par des effets plus ou moins automatiques, très complexes, des réactivations d'attentes qui peuvent être issues de toutes sortes de couches d'ailleurs, qui peuvent être issues de couches rythmiques très très organiques, très, très physiologiques, ou qui peuvent être issues de couches plus culturelles, ou qui peuvent être issues de mathèmes véritablement, c'est-à-dire de formes purement mathématiques qui vont induire, et ça c'est tout ce qui intéresse Pythagore, automatiquement, tel type de forme musicale va induire son prolongement sériel, pas au sens boulésien, mais au sens mathématique du terme, et va produire un mathème musical qui va créer un horizon d'attente immédiatement. Ça, c'est ce qui est inscrit dans ce que peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, Molino ou Dantier appellerait le niveau neutre. Mais il y a des rétentions secondaires, je l'ai souvent dit, je l'ai dit plusieurs fois ici, qui sont des horizons, des souvenirs que j'ai antérieurs qui sont liés à ma pratique musicale, qui me servent de crible dans les rétentions primaires, qui fait que les rétentions primaires sont en fait des sélections primaires. Et ces rétentions secondaires, elles peuvent être de toutes sortes. Elles peuvent être simplement le fait que j'ai écouté d'autres choses avant, et plein de choses, pas seulement des choses musicales, éventuellement la même musique que c'est la deuxième fois que j'écoute, et du coup ça surdétermine mon écoute de l'avoir déjà écouté une première fois. Bon. Mais ça peut être aussi des écoutes instrumentées, évidemment, c'est-à-dire des écoutes au piano, parce que je joue du piano pour écouter la pièce. Ça peut être des écoutes avec l'oreille interne sur la partition. J'ai lu la partition sans l'avoir jamais jouée, etc. etc. Donc, et ça, ce sont des rétentions secondaires que je peux avoir pratiquées avant. Ça induit des protentions secondaires. Quand il y a des rétentions secondaires, il y a aussi des protentions secondaires. Parce que si vous avez des savoirs que vous avez accumulés dans votre expérience, vous avez des attentes qui sont le miroir de ces savoirs, des exigences. C'est ce qu'on va appeler un musicien amateur, un amateur au bon sens du terme, au sens où Antoine Aignan parle de l'amateur. C'est quelqu'un qui va, par ses rétentions secondaires qui lui ont fait acquérir des savoirs, avoir des protentions secondaires qui vont être des protentions de qualité. C'est-à-dire, c'est une bonne oreille, c'est l'oreille qu'attend un compositeur. Mais à ça, il faut ajouter deux choses. Des protentions tertiaires dont je ne vous parlerai pas là. Parce que je n'ai pas le temps, il faudrait qu'on ait le temps de parler, et surtout ce que j'appelle des archiprotentions. Qu'est-ce que j'appelle des archiprotentions? Eh bien, c'est le fait que tout être vivant humain, je vais très vite, hein, je vais à toute vitesse, est habité par ce que Freud appelle tribes, des instincts, des pulsions, plus exactement. Et que ces pulsions, elles sont extrêmement complexes. Freud en a fait des théories, en particulier le moi et le ça, Eros et Thanatos. Ces pulsions, c'est ce que mon narcissisme transforme en désir et rend socialisable, soumis au principe de réalité, sublimable sous formes diverses et variées, ou fixable sur des objets érotiques comme mon épouse, mes enfants, mon œuvre, etc. Tous ces objets narcissiques. Mais cette capacité de fixation de ces pulsions, c'est une capacité de schématisation au sens conscient. C'est une capacité que j'ai à un moment donné de projeter une énergie pulsionnelle qui est en moi, qui est en fait liée à mon rapport à la vie et à la mort, c'est-à-dire au désir de reproduction, etc., etc. Et en même temps à la mort, y compris au nirvana, c'est-à-dire au désir de la mort, parce qu'il y a un désir de la, enfin, un désir, oui, il y a une pulsion de mort. Non. Volonté d'en finir, d'être tranquille, parce qu'effectivement, il n'y a que quand on est mort qu'on est vraiment tranquille. Hein. Ces deux dimensions pulsionnelles, Freud dit qu'il faut les lier, c'est la liaison de ces deux dimensions pulsionnelles qui donne ce que Freud appelle le désir, mais moi je dis, pour que ce désir se lie, il faut être capable de les projeter. Ces pulsions. Et à quoi sert l'art, à quoi sert le symbolique, à quoi sert l'esprit en général? À me servir de projecteur pulsionnel. Et il est évident que la musique, par exemple, on a toujours parlé de la question des affects en musique. Bon. Encore dans les analyses que tu as faites avec le mime, tout ça revient toujours. Bon, quand on fait les analyses avec les unités sémiotiques temporelles, on voit bien comment l'affect revient, bon, toujours. Moi, je me suis penché sur l'art cinématographique des protentions d'Hitchcock. On voit bien comment Hitchcock utilise les fonds pulsionnels, quoi, hein, bon, de manière extrêmement déclarée, extrêmement forte. Le fond pulsionnel doit être lié. Mais pour qu'il soit lié, il faut des pratiques de projection, c'est-à-dire des capacités d'extériorisation. Parce que la projection, comme le dit Godard, celui qui projette le film, ce n'est pas le projecteur dans la salle, c'est le spectateur qui projette. ces pulsions dans le film. Et le film, tout comme le dit Proust aussi, il est là pour capter l'horizon pulsionnel, mais à travers des filtres, et ces filtres, c'est ce que j'appelle des rétentions secondaires collectives, c'est-à-dire une culture. Et cette culture, eh bien, c'est le développement de pratiques de participation esthétique et symbolique. Alors, pour m'arrêter, aujourd'hui, moi, je considère que notre rôle dans les institutions musicales comme les nôtres, c'est de penser ces problèmes, sachant que, moi, je le dis depuis que je suis arrivé à l'IRCAM, l'IRCAM, c'est d'abord un lieu d'organologie. Qu'est-ce qu'on fait à l'IRCAM? On développe des outils. Des outils, des instruments, des machines, des logiciels, de la spatialisation, éventuellement des salles, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait évoluer l'horizon organologique. Nous ne sommes pas seuls à le faire évoluer. Sony aussi l'a fait évoluer. Le Fraunhofer Institute qui a mis au point la norme MP3 l'a fait évoluer. TF1 aussi, avec Star Academy, fait évoluer tout ça. Et c'est un horizon de lutte, lutte dans laquelle il faut que nous arrivions à faire que la lutte évolue dans le bon sens, sans massacrer nos ennemis et nos adversaires, parce que ce ne sont pas les ennemis, ce sont des adversaires. Donc il ne faut pas les massacrer. Il faut essayer de travailler avec. Mais il faut essayer de travailler avec en affirmant quelque chose. Qu'est-ce que nous avons à affirmer? Moi, je crois que nous avons affirmé que la musique, c'est d'abord une expérience et non pas un conditionnement. Que cette expérience, aujourd'hui, l'organologie générale, permet de la revisiter de manière extraordinaire. Et que, comme le disait à juste titre François tout à l'heure, il y a 1 million de compositeurs, et je le prends, donc, pour cette énoncé. C'est-à-dire qu'il y a une attente formidable. Et que cette attente formidable, il est possible aujourd'hui, j'en suis convaincu, à la fois par l'ambition d'écriture musicale, donc vraiment d'activité de compositeur, d'instrumentiste, de musicien, par le développement par la participation à l'évolution du système technique de la musique et sa spécification, et par la proposition de nouveaux modèles sociaux de circulation de toute cette activité symbolique, et en particulier par la transformation des modes d'enseignement. Parce que je crois que la question là est fondamentale. Tu as beaucoup parlé de ça, et moi je travaille beaucoup aussi avec vous, en parallèle avec vous. Il est possible, je le crois absolument, je m'arrêterai sur cette expression, réarmer les oreilles. Je parlais tout à l'heure d'oreilles désarmées, sans yeux, sans mains. Je pense qu'on peut les réarmer, à condition de penser vraiment tout ça au niveau, dans la vastitude. Tout ce dont j'ai parlé là, c'est-à-dire que ça pose des problèmes industriels, des problèmes économiques, des problèmes politiques, des problèmes d'éducation, mais ça pose d'abord des problèmes musicaux. Et en effet, je pense que ces problèmes musicaux doivent amener aussi à reconsidérer l'histoire de la musique, à revisiter l'histoire de la musique, y compris avec ces nouveaux instruments numériques. C'est pour ça que je développe à l'IRCAM le concept d'outils pour l'analyse musicologique. C'est très un parallèle aussi à ce que fait le GRM depuis l'acousmographe et un certain nombre d'autres choses. On se croise souvent sur ce terrain-là. Mais tel que ce n'est pas quelque chose qui s'adresserait aux masses populaires. Non, tel que ça doit constituer, à mon avis, des boucles qui reviennent vers l'acte de création, de la même manière que ce que tu disais à propos de Guy de Réseau. C'est-à-dire que, au départ, il s'agissait de conserver simplement des traces, bon, c'était vraiment une mission de transmission pour le coup, et puis finalement, on voit bien comment c'est remonté, et ça a donné une toute autre manière de faire de la musique, quoi. Une réinstantiation. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on a le temps de parler un petit peu. Excusez-moi d'avoir été long.